sur RFI.
Mondial Sport sur RFI. Éric Chorin.
Bonsoir à toutes et à tous. Pas mal de football au menu de l'émission ce soir avec le PSG et Dijon, si, qui poursuivent leur sans faute en championnat de France, tandis qu'Edouard Mendy, le gardien du Stade de Reims, vient d'être appelé par Aliou Cissé dans les rangs du Sénégal et que Barcelone nourrit, comme d'habitude, de grosses ambitions cette saison. Christophe Jousset, Thomas Saint-Léger et François David seront en direct pour nous en parler. Nous entendrons également Gilles Ekheim, le sélectionneur de l'équipe de France féminine des moins de 20 ans, au lendemain de la quatrième place des Bleuettes au championnat du monde alors que les Japonaises ont décroché le titre. Et puis grâce à Francis Lafargue, vieux compagnon de route du cyclisme espagnol, nous vous dirons tout sur le 73e Tour d'Espagne qui vient de s'élancer dans la Touffeur de Malaga. Un Tour d'Espagne qui va durer 3 semaines et un Mondial Sport 30 minutes. Émission réalisée par Hélène Avril. Le FC Barcelone, on en parle dans une petite demi-heure à la fin de cette émission qui correspondra peu ou prou à la fin du match des Catalans à Valladolid. Mais le ballon rond va tout de suite en parler dans Mondial Sport en commençant par le championnat de France avec vous, Christophe Jousset. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Eric.
Avec donc cette Ligue 1 et un Paris Saint-Germain, Christophe, vous rentrez de vacances. Le PSG, lui, a déjà repris depuis quelques temps. Il enchaîne.
Bon
ouais, troisième succès en trois journées. Cette fois, c'était contre Angers.
Oui, 3-1 pour les Parisiens devant leur public au Parc des Princes avec des buts signés Neymar, Mbappé et Cavani, les trois stars de l'attaque qui étaient alignés ensemble pour la première fois depuis la reprise. Vous voyez, j'ai suivi. La première période a été moyenne. Le PSG a joué avec une défense à trois dans laquelle on trouvait le jeune allemand Thilo Kehrer en provenance de Schalke 04. Kehrer qui a provoqué un pénalty. Sa première apparition ne sera pas un bon souvenir pour lui. Réajustement tactique à la pause. Le PSG est passé à quatre derrière et c'était mieux. Écoutez ce qu'en dit le défenseur Marquinhos.
L'équipe d'Angers en première mi-temps, ils arrivaient à nous faire bouger des deux côtés. Il y avait trop d'espace au milieu. L'équipe était un peu écartée et en première mi-temps, ils ont très bien défait une deux en bloc. C'était difficile de créer des espaces. On arrive aussi à maintenir le score hein, quand même pour rentrer au vestiaire à la mi-temps. Et le coach il a fait des bons changements tactiques qui a sûrement nous donné plus de sécurité derrière, plus de sécurité au milieu. Et on arrive aussi à bloquer les espaces dangereux, que ça a été dangereux.
Marquinhos au micro de Canal+. Le PSG est donc, Christophe, en tête de la Ligue 1. Le PSG qui est talonné par un promu. C'est Dijon qui est allé battre largement Nice sur sa pelouse.
4-0, l'équipe de Patrick Vieira a pris une vraie claque à domicile. Rien que des buteurs africains ce soir. Le Tunisien Oussama Haddadi, Naïf Aguerd, vainqueur du CHAN 2018 avec le Maroc. Mais celui qui a crevé l'écran, c'est Jules Keïta qui a joué avec la Guinée, la dernière Coupe du Monde des moins de 20 ans. Keïta, entré pour la dernière demi-heure, a signé un doublé et donné une passe décisive. Voilà donc Dijon, deuxième de la Ligue 1. Nice, de son côté, reste bloqué à un point et un but. Nice qui a perdu des joueurs à l'intersaison. Nice qui ne pouvait toujours pas aligner Balotelli, suspendu. Nice qui a manqué de réalisme et qui a fini par se montrer très passif en défense. Résultat, la défaite fait mal au défenseur brésilien Dante.
Bien sûr, elle a fait mal. C'est clair que quand on perd cette façon à domicile, il y a beaucoup de choses à corriger. Après, je pense que avant leur premier but, on avait pas mal d'occasions, on a eu de belles actions. Maintenant, il faut que nous, on se reconcentre parce que vendredi, un gros match devant nous. Il va falloir lever la tête, avoir la personnalité. Les bons et très bons joueurs, on le voit à ces moments-là, ces moments difficiles, et on va travailler pour.
On aime les accents sur RFI. Dante au micro de nos confrères de Bein Sport. Alors, petit point, Christophe, sur le haut du classement en attendant la suite et la fin de cette troisième journée. Derrière Paris et Dijon qui comptent chacun 9 points, on trouve 4 clubs à 6 points. Il s'agit de Lyon, Nîmes, Reims et Toulouse.
Alors il y a d'abord Lyon, vainqueur hier soir de Strasbourg 2-0. On trouve ensuite les deux promus, Nîmes et Reims, qui avaient commencé le championnat idéalement en gagnant 2 matchs et qui concèdent ce soir une première défaite. Nîmes battu 1-0 à Toulouse. Le capitaine de Toulouse, Max Alain Gradel, a manqué un premier pénalty, mais il a transformé le deuxième. Reims carrément corrigé à Amiens 4-1. Il faut dire que les Rémois ont joué près d'une heure à 10. C'est en tout cas la première victoire de la saison pour les Amiénois. Saman Godos a marqué le premier but jamais inscrit par un Iranien dans l'élite française. Et le Sénégalais, Moussa Konaté, a encore marqué. Il en est à 3 buts, ce qu'il met au premier rang du classement des buteurs de Ligue 1, en compagnie de Tavares, Mbappé et Neymar. C'est pas mal.
belle compagnie. Les deux derniers résultats du jour, Christophe?
Saint-Etienne qui poursuit sur sa bonne lancée à 1-0-0 à Montpellier et les Stéphanois sont 7e. Et puis premier point de la saison pour Nantes. Nantes qui sur sa pelouse a fait un partout avec Caen. Cette troisième journée de Ligue 1 s'achève ce dimanche avec, dans l'ordre, Lille-Guingamp, Bordeaux-Monaco et Marseille-Saint-Etienne.
Oh bah, je sens que vous allez revenir demain, Christophe.
Eh ben, banco.
Allez,
je serai là.
À demain, Christophe. Thomas de Saint-Léger nous rejoint maintenant pour parler d'un joueur qui foulait justement ce soir les pelouses de Ligue 1, le gardien du Stade de Reims, Édouard Mendy. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Eric, on lui a pas porté chance.
Non, il en a pris beaucoup ce soir, Édouard Mendy. Excellent l'an dernier en Ligue 2, auteur d'un bon début de saison à l'étage du dessus. Malgré donc la lourde défaite de ce soir, la prochaine étape, Thomas, ce serait logiquement une première cape avec le Sénégal.
Vous avez l'œil, Eric. Vous avez vu, comme moi, qu'Edouard Mendy faisait partie de la liste d'Aliou Cissé pour la rencontre à Madagascar dans deux semaines en éliminatoire de la CAN 2019. C'est l'un des cinq nouveaux, ce grand gaillard d'1m97, déjà appelé sans jouer par le pays de ses parents, la Guinée-Bissau. Alors pourquoi lui? Pourquoi ce choix maintenant? Quel sera son rôle avec les Lions de la Teranga? Élément de réponse avec Babacar Fall.
Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, avait entendu les nombreux appels du pied d'Edouard Mendy, le gardien de Reims, qui ne cachait plus son souhait de jouer pour le Sénégal.
Je suis allé le voir, on a discuté, son état d'esprit me plaît. Avec les performances qu'il est en train de faire actuellement en début de saison avec Reims, comme c'est un garçon qui a énormément de qualité, il a envie de jouer, et c'est un plus pour lui, c'est un plus aussi pour nous.
Mendy, qui avait déjà été appelé par la Guinée-Bissau, le pays d'origine de ses parents, qui ont vécu au Sénégal. Du côté de Bissau, la fédération de football n'est pas contente que son homologue sénégalaise lui arrache l'une de ses rares pépites. Yacine Mar, le directeur technique national du football au Sénégal.
Le choix quand même revient au joueur. Je pense que si le joueur choisit de jouer pour le Sénégal, ben écoutez, je pense qu'on ne peut pas l'empêcher.
Édouard Mendy, le contraire de Pape Mbaye Fall, un gardien de but comme lui, d'origine sénégalaise et qui a été sélectionné par la Guinée-Bissau lors de la CAN 2017 au Gabon. Une Coupe d'Afrique pour laquelle le portier de Reims avait décliné la convocation du sélectionneur des Djourtous, le surnom de l'équipe de Guinée-Bissau. Pape Mbaye Fall, qui comprend le choix de son désormais ex-coéquipier en sélection bissau-guinéenne.
Quand il est arrivé en sélection, on s'est présenté, il m'a demandé sur le Sénégal. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il arrive en sélection pour le Sénégal.
Mais pourquoi Édouard Mendy a-t-il attendu ses 26 ans pour choisir les Lions? Salif Diallo du service des sports de l'APS, l'agence de presse sénégalaise.
L'équipe nationale du Sénégal a besoin d'un gardien titulaire. Et si on voit un peu les prétendants au poste au Sénégal, aucun ne joue comme titulaire. Alfred Gomis en Italie n'est pas le numéro 1 de son club SPAL. Quant à Blaise Diallo, tout le monde sait qu'il est le numéro 2 à Rennes. Donc, Edouard Mendy, à 26 ans, quand il vient, il est titulaire à Reims. C'est l'un des meilleurs gardiens du championnat de Ligue 2 français de la saison dernière. Le Sénégal a besoin d'un grand gardien. Et puis, lui aussi, il a besoin de faire une carrière internationale.
L'âge, pas un problème, selon Pape Mbaye Fall, qui défend son ancien camarade en sélection bissau-guinéenne.
Moi, je crois qu'un gardien à 26 ans, il est encore jeune. Il a beaucoup de temps et beaucoup d'avenir. Il a beaucoup de choses à démontrer.
Reste à savoir si Aliou Cissé fera d'Edouard Mendy un titulaire lors de la prochaine sortie des Lions contre Madagascar en deuxième journée des qualifications de la CAN 2019. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Le foot en Afrique toujours et toujours avec vous Thomas, un nouvel homme fort à la tête de la Fédération béninoise de football, il s'appelle Mathurin de Chacus.
Mathurin de Chacus, homme d'affaires, président du club des Dragons de Louémé, seul candidat et logiquement élu avec sa liste nouveau départ, 55 voix pour, 18 contre, une abstention et une voix nulle. Il succède à Anjorin Moucharaf avec une ambition, relancer un football béninois en crise, une équipe nationale qui patine, un championnat en arrêt chronique. Alors, quel cap souhaite donner la nouvelle direction? Quels seront les moyens mis en œuvre? Écoutez, le tout neuf vice-président de la FBF, Francis Bian, il est au micro de Félix Soundé Pépéripé.
Nous avons un large programme que nous allons détailler après, mais il faut reconnaître que la première réussite d'une entreprise, d'abord, c'est la transparence et la rigueur dans le travail. Quand ces deux éléments ne sont pas ensemble, vous comprenez très bien, on peut avoir n'importe quel moyen, les désordres vont s'installer. Je crois que nous allons travailler dans la transparence pour que les résultats soient visibles, améliorer la performance de nos clubs, assainir la gestion de toute la Fédération Bénin de football. Et je crois, quand ce travail sera fait, même ceux qui ont envie de financer vont se dire, ah voilà, maintenant une entreprise qui est vraiment en train d'être géré de façon normale, nous pouvons venir investir. Quand des investisseurs trouvent que vous n'êtes pas à la hauteur de ce qu'on vous a confié, ils ne viendront pas. Donc c'est vraiment à ce prix que nous allons travailler et le détail vous sera présenté plus tard.
On est en train d'entendre que le chef de l'État va injecter beaucoup de moyens financiers.
Ça, je crois, le chef de l'État l'a dit depuis 2016 qu'il a tenté de nous réunir parce qu'il s'est dit, avant d'injecter les sous dans la fédération, il faut d'abord assainir, il faut mettre une équipe qui sera une bonne équipe avant que l'on ne puisse agir. Donc, c'est aujourd'hui la fin de la transition et je crois que le travail que nous avons amorcé va attirer le chef de l'État et comme il a promis, il va investir dans le football.
Donc, on doit s'attendre à la régularité des compétitions statutaires de la Fédération Bénin du football.
Bien sûr, c'est pour ça déjà notre premier objectif, c'est de tout faire pour faire redémarrer le championnat national de football. C'est tellement au plus dans un mois et le reste, nous allons essayer au fur et à mesure de trouver des solutions parce que tant que le ballon ne roule pas, hein, c'est comme si on ne faisait rien. Donc, notre priorité, c'est d'abord le championnat. Et vous allez voir, les autres compétitions vont s'en suivre.
Les promesses de Francis Bian à l'aube de cette nouvelle ère pour le football béninois, c'est en tout cas comme ça que les choses sont présentées. On suivra bien sûr l'évolution de ce dossier.
On compte sur vous Thomas de Saint-Léger, merci. Et allez, en football également, il y a le mondial des moins de 20 ans qui s'est refermé hier en Bretagne sur le sacre des Japonaises victorieuses 3-1, des Espagnols en finale à Vannes. Inata, Misayawa à la 38e minute, Saori Takarada à la 57e et Fukanagano à la 60e. 65e ont permis aux Nippones de remporter leur premier titre mondial dans la catégorie. Candela Andorar a réduit le score à la 71e pour des Ibères qui ont eu la maîtrise du ballon mais pas celle du match. Américaine et allemande trois fois chacune et nord-coréenne deux fois s'étaient partagés les huit précédents titres mondiaux. Quant aux Françaises, à domicile, après leur élimination en demi-finale par les Espagnols, elles ont laissé filer la troisième place sur le podium en s'inclinant hier au tir au but face aux Anglaises, un partout et quatre tirs à deux. Finale il y a deux ans, troisième il y a quatre ans, les Bleuettes espéraient faire mieux cette année à la maison. Ça a marché hein, jusqu'en quart avec l'élimination des championnes du monde en titre, les Nord-Coréennes, 1-0. Mais les joueuses de Gilles Ekem ont laissé passer leur chance en demi. La star de l'équipe, Marie-Antoinette Katoto, la rayonnante hein, au PSG cette saison, n'ayant jamais réussi à apporter aux Bleuettes le petit plus qu'attendait leur sélectionneur à l'arrivée. Une place au pied du podium, forcément un peu rageante pour Gilles Ekem.
C'est rageant, ça fait surtout mal parce que bon, je pense que on avait plutôt bien réussi notre entame de match. On a quelques belles occasions lors de la première mi-temps. Voilà, je pense que c'était un match mieux réussi que la demi-finale et que les filles méritaient mieux. Voilà, et puis après, bon, c'est tout ce que rapportent les tirs au but, c'est souvent cruel. Et voilà, on a été bien moins bonnes que les Anglaises. Bon, ben. Voilà, c'est comme ça, il fallait un troisième, un quatrième. On finit quatrième, la plus mauvaise place, comme on dit, mais voilà, c'est dommage.
Quel est votre sentiment à la fin de ce mondial, au moment de faire le bilan?
Le bilan, il y a quand même pas mal de satisfaction, notamment les jeunes joueuses qui faisaient partie de ce groupe et que j'aurai le plaisir de conduire la saison prochaine en 19 ans, ont plutôt bien réussi cette compétition. Le regret, c'est que tout le monde n'ait pas été performant, et notamment, on attendait un petit peu mieux de la part de Marie-Antoinette Katoto. Voilà, bon, c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'on attendait trop et que c'était pas sa compétition. Voilà, bon, c'est dommage parce que c'était une arme sur laquelle on comptait. Sinon, pour le reste, je suis satisfait. Les joueuses ont répondu, ont fait ce qu'il fallait, donné le meilleur de elles-mêmes. Et donc, voilà, on peut espérer pour l'avenir avec les toutes jeunes qui, je crois, ont montré de très belles choses.
Gilles Ekem, le sélectionneur de l'équipe de France féminine des moins de 20 ans qui répondait à Tom Rossi demain. Vous n'avez qu'à revenir, vous entendrez la vice-présidente de la Fédération française de football, Brigitte Henriques, dresser le bilan de ce mondial à un an de la Coupe du Monde féminine que la France va accueillir pour la première fois. Le cyclisme dans Mondial Sport, c'est le Tour d'Espagne qui s'était lancé aujourd'hui de Malaga, une 73e Vuelta dont le premier leader est l'Australien Ron Dennis, vainqueur avec 6 secondes d'avance sur le Polonais Michał Kwiatkowski du contre-la-montre individuel de 8 km qui s'est couru dans la cité andalouse. Dennis qui sera donc le premier porteur du maillot rouge, et oui c'est la couleur choisie après quelques tâtonnements par les Espagnols pour le premier au classement général. Il faut dire que le jaune était déjà pris en France, c'est le rose en Italie. Mais qui portera ce maillot rouge le 16 septembre prochain à Madrid sur le podium à l'issue de la 21e et dernière étape? Pas Christopher Froome, sulfureux lauréat l'an passé mais absent cette année. Tout comme Geraint Thomas d'ailleurs, son coéquipier qui vient de lui succéder au palmarès du Tour de France. Des absences qui rendent du coup cette Vuelta très ouverte. Les prétendants à la victoire finale sont nombreux, même si certains coureurs comme le français Thibaut Pinot sont venus sur le Tour d'Espagne pour préparer le championnat du monde qui se disputera sur un parcours très escarpé en Autriche fin septembre. Une chose est sûre, il n'y a pas de candidat à la victoire finale dans l'équipe Euskadi Murias, équipe de deuxième division professionnelle invitée par les organisateurs. Mais après le retrait du peloton des maillots orange de l'équipe Euskaltel Euskadi en 2013, cette présence d'une équipe basque sur le Tour d'Espagne est en soi un événement. De Dalmacio Langarica, vainqueur de la Vuelta en 46, à Mikel Landa aujourd'hui, il y a toujours eu des coureurs basques dans le peloton, mais plus d'équipe à eux depuis 5 ans. Depuis plus de 30 ans, Francis Lafargue, lui, a accompagné les plus grands coureurs espagnols, Pedro Delgado et Miguel Indurain, notamment au sein des équipes Reynolds, Banesto, Caisse d'Épargne et Movistar. Il accompagne aujourd'hui le développement de l'équipe Euskadi Murias et il était bien placé pour nous dire en quoi c'est important d'avoir une équipe basque sur la Vuelta.
Une équipe basque, bien sûr, parce que c'est une terre de cyclisme, c'est une terre qui a eu beaucoup de champions, beaucoup d'équipes sont succédées depuis quelques décennies, et puis il y a eu la disparition de la fameuse équipe Euskaltel depuis 5 ans, et c'est vrai que le public est demandeur et un peu triste dans les Pyrénées pendant le Tour de France. Donc c'est un retour pour ce public, pour cette terre de cyclisme, et pour la Vuelta aussi, bien sûr, c'est aussi une bonne nouvelle, d'autant plus qu'il y a une étape qui se terminera à Bilbao, sur les hauteurs de Bilbao, une étape très dure d'ailleurs.
Alors, on se souvient bien des maillots orange de l'équipe Euskaltel Euskadi. Là, c'est une nouvelle équipe qui va arriver. Avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous rappeler, mais c'est qui les coureurs basques, en fait, dans l'histoire du cyclisme? Il y en a encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Ah, oh, ben oui, l'histoire est longue, parce que le cyclisme basque, ce n'est pas seulement ces 10 dernières années, mais ça a commencé bien plus tôt. On peut citer Loroño, ancien vainqueur de la Vuelta et ancien meilleur grimpeur du Tour aussi, l'adversaire, on va dire, de Bas Montes à l'époque. Et puis, on a eu de grands champions, bien sûr. On a eu des garçons qui sont illustrés surtout pendant la Vuelta et le Tour de France. C'était la spécialité de l'équipe CAS à l'époque. Hein. L'équipe CAS s'illustrait sur le Tour de France, mais avait une mentalité un peu différente, visait plutôt le classement général. Alors, à l'époque, la Vuelta se disputait après le Giro d'Italie, avant le Tour de France. Ça faisait beaucoup pour certains. Et sur la lancée du Tour d'Italie, où généralement il brillait avec les Fuentes, Galdós et autres, González Linares, bon voilà.
C'est... Là on est dans les années 70, hein, c'est ça hein.
Oui, les années 70, voilà, les coureurs brillaient aussi dans la foulée sur la Vuelta. Après, sur le Tour de France, c'était un peu plus compliqué, mais c'était quand même l'époque de Merckx aussi, il ne faut pas oublier qu'il dominait le cyclisme à l'époque. Donc après on a connu l'époque des Marino Legarreta, et Julián Gorospe, bon, en Malagne, il y a toujours eu des représentants du cyclisme basque qui sont illustrés. Et bien sûr, l'ICECAL, l'an dernier, qui avait gagné à Luzardiden, donc une super étape de montagne, bien sûr, ce qui avait le don de contenter les supporters qui étaient euphoriques déjà dans les Pyrénées. Donc voilà, ça leur manque beaucoup, hein, je vous dis de suite. Hein. C'est vraiment décaféiné sans les couleurs basques. Ce public... est en attente depuis quelques années, donc voilà.
Il y a eu aussi Abraham Olano, José Babeloki, c'est des coureurs qui
bien
ont compté.
Bien entendu, je suis désolé de ne pas pouvoir tous les citer, mais bien sûr, il y a Abraham Olano, bien sûr, Beloki, Gabica, bon, il y a beaucoup d'excellents coureurs. Et on peut rajouter, bien sûr, Miguel Indurain, puisqu'il est basque aussi, navarrais, mais c'est quand même le Pays Basque, donc il y a beaucoup de coureurs. Et ici, on a eu aussi Marcel Kay, par exemple, autour de en France, qui a gagné une étape du Tour de France en 1959 à Bayonne. C'est lui aussi un Basque, puisqu'il était de Montléon, donc voilà, le Verdolat, bon, on a eu toujours des champions, mais on a surtout, parler du passé, c'est une chose, mais je crois qu'il faut parler aussi du futur. Et cette terre basque, elle est propice, justement, on aime beaucoup le sport, mais on aime le cyclisme en particulier. Il y a beaucoup d'équipes de jeunes coureurs, il y a une belle réserve, une belle pépinière, et comme dans tous les sports, le problème, la base de la pyramide, plus elle est large, et plus on aura de chances de retrouver les champions au sommet, ou à la cime, mais le problème, c'est que il faut de l'argent. Donc voilà, on est un peu en pénurie, il y a eu la crise, des époques un peu plus compliquées pour les sponsors, et j'espère que cette équipe va ouvrir la voie, et surtout va amener, de par l'arrivée peut-être d'un sponsor, un petit peu la renaissance ou le renouveau du cyclisme basque.
Alors Francis Lafargue, il y a un Basque qui était assez attendu sur cette édition de la Vuelta, mais il est forfait, c'est Mikel Landa qui court pour la Movistar, la grosse équipe espagnole qui écrase un peu tout, qui prend un peu tous les coureurs espagnols, y compris les Basques. C'est une déception que Mikel Landa ne soit pas là cette année, parce que ça aurait peut-être pu être son année.
Oui, bien sûr, Mikel Landa, c'est un coureur qui est talentueux, il est rempli de classe. Un coureur qui a déjà fait ses preuves un peu sur les grands tours. Alors, cette année, sur le tour, on l'a vu un peu plus à la peine que l'an dernier, même s'il était le plus souvent avec les protagonistes. Mais c'est surtout sur la Vuelta, je pense qu'il aurait pu briller, d'autant plus que le championnat du monde arrivait dans la foulée à Innsbruck, qui va être terrible. Donc c'est un coureur qui aurait pu briller. Je pense qu'il n'avait pas fait le Giro cette année, dans l'optique un peu de marcher davantage sur le tour, d'être moins fatigué que l'an dernier, et puis surtout de briller sur la Vuelta, le championnat du monde. Malheureusement, c'est pas le cas.
Et c'est une course qui s'est déroulée au Pays Basque qui lui a été fatale, en tout cas pour ce tour cette année, hein, la Classica, San Sebastián.
Tout à fait, c'est paradoxal, c'est des aléas de la course, malheureusement, c'est tombé sur Mikel Landa, qui va vraiment manquer au public et à la Vuelta cette année.
Alors vous avez un regard avisé sur le cyclisme espagnol et sur la Vuelta, cette année, la Sky est là, mais ses leaders ne sont pas là, ni Froome, ni Geraint Thomas, il n'y a pas non plus Egan Bernal, puisqu'il a lui aussi été pris dans la chute de la Classica San Sebastián. Du coup, c'est une course assez ouverte, qui ne sera pas écrasée cette fois-ci par la Sky comme le Tour de France a pu l'être d'une certaine manière. Qui voyez-vous parmi les favoris cette année?
Écoutez, comme vous venez de le dire, la course va être très ouverte cette année. Sachant que les difficultés vont arriver à partir de la 9e ou 10e étape, quand on va arriver à la Covadonga sur Salamanque. Donc la première partie de la Vuelta, bon, on aura des arrivées au sprint et effectivement on peut aussi perdre la Vuelta parmi les outsiders ou favoris, mais sur un jour, mais je pense qu'il faut attendre déjà la 10e journée. Et ensuite, on va voir, évidemment, comme vous disiez, l'équipe Sky n'a pas de favori, mais il faut s'en méfier parce que il y a de très très bons coureurs dans cette équipe, comme Kwiatkowski. Je le vois bien, donc Kwiatkowski qui est tombé aussi lui sur le tour. Il y a aussi des garçons qu'on connaît moins, comme Kruijswijk, mais on l'a vu à l'œuvre sur le tour. Il a failli gagner le Giro, et je pense que c'est un terrain qui lui convient bien. Nous avons les frères Yates, il y a Quintana, je pense que Valverde sera là pour jouer les troubles faites, mais Quintana aura à cœur de revoir un peu sa copie. Donc la Vuelta, au mois de septembre, c'est un peu, pour certains, un rattrapage, je veux dire. Quand on a raté les examens de juillet, au mois de septembre, on essaye de briller. Et bien, c'est un peu le cas pour Quintana, par exemple, qui a gagné, bien sûr, une belle étape dans les Pyrénées, mais qui n'a pas répondu aux attentes de beaucoup de monde. Donc, je pense qu'il va vouloir se racheter.
Les favoris du Tour d'Espagne, passés en revue par Francis Lafargue. Et le cyclisme espagnol qui est en deuil, Javier Ochoa, est décédé hier à 43 ans des suites d'une longue maladie. L'ancien champion d'Espagne espoir et brillant vainqueur d'une étape du Tour de France en 2000 sur les hauteurs d'Otacam, après avoir franchi seul en tête Marie Blanc, le Soulor et l'Aubisque, a connu un terrible coup du sort l'hiver suivant. Son frère jumeau et lui avaient été percutés par un automobiliste lors d'une sortie d'entraînement. Ricardo Ochoa était mort sur le coup et Javier plongé dans le coma pendant un mois avec de graves séquelles. Il avait repris quand même le cyclisme pour s'illustrer notamment aux Jeux Paralympiques avec 4 médailles, dont une en or à Athènes en 2004.
On reste en Espagne, mais après les cyclistes à Malaga, on va retrouver les footballeurs du Barça qui jouent actuellement à Valladolid. Bonsoir François David.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
François, le Barça a entamé la Liga par une victoire 3-0 face à Alavés, un doublé de Messi et un but de Coutinho. Qu'en est-il ce soir à Valladolid?
Eh bien que c'est dur pour le Barça, alors qu'il mène actuellement 1-0, but d'Ousmane Dembélé, un but marqué peu après la pause, le deuxième but officiel d'Ousmane Dembélé, après son but en Supercoupe d'Espagne. Il en avait marqué 4 l'an passé, c'est la résurrection de Ousmane Dembélé, champion du monde, mais que c'est dur pour le Barça, sur une pelouse horrible. Eric, une pelouse horrible.
Mais pourquoi donc?
Placé il y a 4 jours, et on est sur un véritable champ de patates. Alors évidemment, c'est pas simple pour le Barça qui veut développer ses actions. C'est un peu plus simple pour Valladolid avec un jeu beaucoup plus direct. Ils sont en train de souffrir. Le Barça, Malcolm est entré il y a quelques secondes, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Ses premières minutes officielles en Liga, Malcolm. Et pour l'instant, le Barça mène 1-0 à quelques minutes de la fin.
À quelques minutes de la fin. François, au-delà de ce match, intéressons-nous aux ambitions du FC Barcelone cette saison. C'est le champion d'Espagne en titre, mais depuis 3 ans, il manque quelque chose au palmarès des Catalans.
Effectivement, il manque quelque chose. Bon, ils l'ont gagné 5 fois, mais il manque cette Champions League. 4 fois sur les 5 dernières années, le FC Barcelone s'est fait éliminer en quart de finale. Dans le même temps, le Real Madrid, lui, gagnait 4 fois sur 5 la Ligue des Champions. C'est clairement l'objectif majeur des partenaires de Lionel Messi. D'ailleurs, Messi, promu capitaine cette saison en l'absence d'Andrés Iniesta qui est parti au Japon, l'a annoncé lors du trophée Gamper, vous savez, ce trophée qui ouvre traditionnellement la saison au Camp Nou. Eh bien, l'a dit, micro à la main, devant le public du Barça, cette saison, on va tout faire pour la ramener, je sais qu'il nous manque quelque chose. Voilà, ce sont les paroles de Lionel Messi, il y a quelques jours, lors du trophée Gamper. Effectivement, ils vont tout faire, les Catalans, pour laver un petit peu cet affront. C'est vrai que l'image du Barça en Ligue des Champions ces dernières saisons n'a pas été très bonne. L'an passé, éliminé piteusement sur le terrain de l'AS Rome, tandis que le Real Madrid remportait sa 3e Ligue des Champions consécutive. Alors, effectivement, ils avaient gagné la Liga, ils avaient gagné la Coupe du Roi, mais il manque ce petit piment européen que le Barça veut effectivement combler cette saison, Eric.
Et François, qui dit ambition, dit moyens. Donc, joueur, le Barça s'annonce-t-il plus fort cette année ?
Je pense que oui, Il y a beaucoup plus de compétitivité. C'était ce qui manquait au FC Barcelone ces dernières saisons. Le Barça qui s'appuyait trop sur le talent de Messi, trop sur le talent de Luis Suarez, trop sur le talent d'Andrés Iniesta. Et quand ces joueurs n'étaient pas là sur la pelouse finalement, eh bien il y avait un grand creux au niveau du talent. Certains joueurs sont partis. Le dernier en date, là, peut-être Paco Alcácer qui va aller au Borussia Dortmund. Et 4 nouveaux joueurs sont arrivés. 4 joueurs tout de suite compétitifs. Arthur, le milieu de terrain brésilien en provenant du bord de Porto Alegre. Malcolm, l'ancien joueur de Bordeaux. Clément Lenglet, qu'on avait connu à Nancy, l'ancien capitaine de Nancy, qui était au FC Séville l'an passé. Et Arturo Vidal, la grosse pièce manquante. Arturo Vidal, qui va pouvoir apporter son muscle dans l'entrejeu, sa compétitivité. Et quelqu'un qui va pouvoir aider peut-être le Barça dans ces matchs compliqués où il faut gagner peut-être 1-0, mais que le Barça en Coupe d'Europe n'arrivait pas à faire.
Un petit mot rapide, Léo Messi s'est remis de l'élimination de l'Argentine en Coupe du Monde face à la France.
A priori, oui. Alors, c'est pas simple pour lui ce soir, hein. Comme on vous le disait sur une pelouse terrible. Mais Messi va bien. Messi a marqué 2 buts. Messi organise le jeu. Messi joue à plusieurs postes différents. Vous l'avez vu en 4-4-2 l'an passé. Et surtout, Messi est rassuré. Je vous parlais de la nouvelle compétitivité du Barça. Un mot peut-être sur Eric Abidal, le nouveau directeur sportif du FC Barcelone, qui a fait, je pense, pour moi, des miracles. Cette saison, il a ramené 4 joueurs compétitifs, comme on vous l'a dit. Très rapidement, et des joueurs qui vont pouvoir aider Messi à se sentir mieux et enfin gagner cette Ligue des Champions qui lui échappe depuis 3 ans.
Merci François David à Barcelone. Alors à noter, toujours en Espagne, qu'en attendant la fin du match qui oppose Valladolid au Barça, toujours 1-0 pour les Barcelonais, ce but d'Ousmane Dembélé, eh bien l'Atlético Madrid s'est imposé 1-0 face au Rayo Vallecano, un but signé Antoine Griezmann, son premier pour les Colchoneros cette année, 1 heure après avoir présenté la fameuse Coupe du Monde remporté par les Bleus aux supporters de l'Atlético. Notez qu'en Italie, Pjanic et Mandzukic ont donné la victoire à la Juventus Turin, 2-0 face à la Lazio Rome. Cristiano Ronaldo s'est montré dangereux, mais n'a toujours pas marqué. Puis Naples, mené 2-0, a fini par venir à bout du Milan AC 3-2 avec un doublé de Zielinski et une réalisation de Mertens. Notez enfin qu'en Angleterre, Liverpool, vainqueur de Brighton 1-0 grâce à Mohamed Salah, profite du faux pas de Manchester City, tenu en échec à Wolverhampton. 1-0. Merci à Hélène Avril pour la réalisation de ce Mondial Sport. On se retrouve demain.